au chef des chantres sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauve, le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Alors je vous invite à suivre la suite avec Giovanni.
Je vous invite à prendre votre Bible dans psaume 22, 17 à 20. Car des chiens m'environneront, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et moi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours.
Demain, beaucoup de chrétiens, protestants, catholiques, orthodoxes, vont fêter le dimanche de Pâques. Se rappeler que, après la semaine de la Passion, Jésus est ressuscité. Cette semaine, dans la série de conférences que j'ai faites dans ces lieux et qui se poursuivent ce soir et demain, et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore venus à venir, nous avons lu la Passion telle qu'elle est racontée par l'Évangile de Marc, l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc. Et on est frappé de voir à quel point ce psaume, dont deux extraits viennent de nous être lus, a une place importante dans ces récits. Jésus crucifié pousse le cri de détresse qui commence ce poème. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Un Jésus non seulement qui souffre, parce que ça fait mal d'avoir été battu, flagellé, qui souffre aussi moralement parce qu'on se moque de lui, on ricane devant lui, on l'insulte. Et un Jésus qui, là, sur la croix, a même l'impression, en citant ce poème, que son Père n'est plus là, qu'il l'a abandonné, qu'il l'a laissé tomber, et qu'il est face au drame, tout seul. Pourtant, ce Jésus sait très bien quelle est la position de son Père. Et il est important pour chacun d'entre nous, parce que la vie ne nous épargne pas. Nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre à des situations difficiles, douloureuses, où ça fait mal physiquement, où ça fait mal moralement, où nous ne savons plus que faire et comment nous en sortir, et où nous avons l'impression d'être complètement abandonnés. Oui, ça nous arrive. Alors il est important que nous sachions où est le Père, que fait le Père céleste pendant ce temps-là. Au cours de cette semaine, la dernière que Jésus a vécue, on nous explique qu'il est allé loger chez des amis dans le village de Béthanie et que tous les matins il descendait à Jérusalem, qu'il allait dans le temple enseigner et que tous les soirs il revenait chez ses amis. Le dimanche, il est entré triomphalement et on appelle cela le dimanche des rameaux. Le lundi, il est retourné avec l'histoire du fameux figuier qui ne portait pas de fruits. Le mardi, il est redescendu. Le mercredi, il est redescendu. Et c'est probablement le mercredi qu'il a raconté cette histoire que je vous invite à lire maintenant et qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Marc, chapitre 12, et nous prendrons le début de ce chapitre. C'est Jésus qui parle et il s'adresse particulièrement aux responsables du temple, aux principaux chefs du peuple d'Israël qui sont là et qui sont intrigués par l'attitude de ce personnage, qui l'ont à l'œil, parce que depuis longtemps déjà ils font le projet de l'éliminer. Et Jésus, nous dit Marc, se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous ». Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Jésus a une manière particulière d'enseigner. Il raconte des histoires, mais il ne les raconte pas n'importe comment. Dans le début de cette histoire, il parle d'un homme qui a acheté une vigne et qui a planté cette vigne dans ce terrain. Et il nous donne quelques détails du travail qu'il a fait. Il emploie des expressions très précises. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Et quand Marc rapporte cette parabole de cette façon-là, il fait une citation d'un poème qui se trouve dans le prophète Isaïe au chapitre 5, où déjà le prophète Isaïe raconte une histoire qui ressemble beaucoup à celle-là. Et avec ces mêmes détails, il plante la vigne, il entoure d'une haie, il creuse un pressoir et il bâtit une tour pour surveiller cette vigne. Et ces responsables religieux d'Israël qui entendent Jésus raconter cette histoire ne peuvent pas manquer de voir l'allusion à ce poème du prophète Ésaïe. C'est vrai que c'est un poème qui est déjà vieux, il a plus de 700 ans à cette époque. Mais ce poème, il est expliqué très simplement par Ésaïe. Celui qui plante la vigne, c'est Dieu. La vigne, c'est vous, le peuple d'Israël. Dieu vous a planté dans une terre qu'il a choisie. Il a tout fait pour vous protéger. Il a mis une haie. Il a creusé un pressoir pour que des fruits de cette vigne en puissent faire ce bon jus de raisin dont on se régale. Et puis il a bâti une tour pour la protéger, pour que des ennemis ou des prédateurs ne viennent pas la piétiner ou s'emparer des raisins avant qu'il soit récolté. Et le poème se termine chez Ésaïe en disant que ce vigneron a été très déçu. Il avait tout fait pour avoir un bon raisin. Et il a eu un raisin qui était acide, mauvais, qui n'avait pas bon goût, des peaux très épaisses, des gros pépins, enfin, rien de ce qu'on aime dans le raisin. Et il est très déçu, et il va leur dire, vous savez, cette vigne, c'est vous. C'est vous les Israélites, vous me décevez, vous ne vous conduisez pas comme je l'espérais. Pourtant, j'ai tout fait pour vous aider, pour que vos vies produisent des beaux fruits. Et je suis déçu. Mais ici, Jésus ne raconte pas tout à fait la même histoire. Après nous avoir cité le poème d'Ésaïe, Jésus va nous dire, ce vigneron-là, il va louer sa ferme à des employés. Ces personnes-là vont être chargées de mission. Elles vont devoir cultiver, entretenir cette vigne. Et je vous assure que le travail du vigneron n'est pas un travail tout simple. Il faut avoir la curiosité de l'observer, de regarder tout le soin qui est nécessaire pour tailler, pour entretenir, pour permettre à une vigne de porter de bons fruits. Et c'est ce que ce maître attend des employés qu'il salarie pour faire cela. Évidemment, les auditeurs de Jésus comprennent assez facilement, il n'y a pas besoin d'une grosse ficelle pour comprendre, que c'est d'eux qu'il est en train de parler. C'est eux les responsables d'Israël, c'est eux qui sont chargés de cultiver ce peuple, de l'entretenir, de lui permettre d'apprendre des Écritures, d'apprendre de leur histoire, d'apprendre des expériences qui sont vécues, d'apprendre dans la prière et dans le respect de Dieu ce que Dieu attend. Ils sont là pour ça. Ils sont au service du temple, ils sont au service de cette nation et ils doivent agir. Et puis, le temps passe et arrive le moment de la récolte. Et là, vous avez remarqué que l'histoire tourne au drame. Le maître envoie un premier serviteur et on n'accède pas à la demande tout à fait justifiée du maître de lui fournir une partie de la récolte. On renvoie cet ouvrier à vide et il est obligé de se dire « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Mais il insiste, il en envoie un deuxième. Et ce deuxième, on va le maltraiter. Vous avez remarqué, on a l'impression que plus le maître insiste en envoyant des personnes pour recevoir ce qui lui est dû, plus les traitements sont violents, méchants, sauvages et dramatiques. Et arrive un moment où le texte de Marc nous dit, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, il nous dit ceci, il avait encore, au verset 6, un fils bien-aimé. Et la formule est unique chez Marc. Il n'y a qu'une personne qui, dans les évangiles, est appelée fils bien-aimé. Ce fils bien-aimé, c'est celui qui raconte l'histoire. C'est Jésus. Et ce qui est absolument remarquable dans la façon dont Jésus raconte sa propre histoire, mais en se mettant du point de vue du Père, celui dont quelques jours plus tard, il va crier « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus se met dans la peau du Père, raconte l'histoire qu'il va vivre 3 jours plus tard en disant « Il avait encore un fils bien-aimé ». Il l'envoya vers eux. Et le texte de Marc est assez bouleversant parce qu'il va nous dire que quand le Père envoie le Fils vers eux, il se dit quelque chose. Ils auront du respect pour lui. Je ne sais pas si nous osons nous mettre dans la peau de ce maître. Il a envoyé au moins 3 serviteurs individuellement, puis le texte nous dit plusieurs autres. Tous ont été maltraités. Certains ne sont pas revenus. Ils ont été tués. Et voilà un maître qui, visiblement par cette parole, espère encore quelque chose. Espérer contre toute espérance. Voilà l'attitude du Père que Jésus est en train de nous décrire. Un Père qui espère. Alors que ses émissaires ont été maltraités, que certains d'entre eux ont été bafoués, mis à mort, insultés. Et il a un fils bien-aimé. Il n'en a pas 10, 15, il en a un. Et il l'envoie quand même. Et il l'envoie avec cette parole extraordinaire. Peut-être. En tout cas, c'est ce que Matthieu va ajouter dans sa version. Peut-être auront-ils du respect pour lui. Le Dieu de la Bible, le Père que Jésus adore et qu'il a envoyé, c'est un Dieu qui a placé toute son espérance en l'homme. Il est fou, et complètement fou, d'espérer que les hommes vont se conduire correctement. Ils ont déjà massacré les différents prophètes qui sont là illustrés par ses serviteurs, et maintenant il envoie son fils, mais il est fou. Et pourtant, il espère. Ils respecteront mon fils. Peut-être ils le respecteront. Alors bien sûr, nous savons que Dieu connaît les choses. Quand Matthieu utilise dans la version parallèle ce peut-être, cela peut nous faire penser à ce dialogue fameux qu'on trouve à la fin du chapitre 18 de la Genèse, où Abraham va discuter avec Dieu à propos de Sodome et Gomorre. Mais tu ne peux pas détruire cette ville s'il y a même seulement 50 justes. Et Dieu va lui dire non, je ne le ferai pas. Et Abraham, sentant que il est peut-être un peu courageux ou trop insistant, va dire, mais peut-être il n'y en aura que 45. Et vous savez que ce peut-être, il va le répéter. Peut-être il n'y en aura que 40, 30, 20, 10. Imaginez-vous le Dieu, le Père de Jésus, qui se dit peut-être. Peut-être y en aura-t-il un dans le Sanhédrin qui respectera mon fils. Peut-être que Nicodème, dont l'évangile de Jean nous dit qu'il est venu voir Jésus et qu'il lui a dit « Tu es certainement un homme béni de Dieu parce que tu fais des miracles qu'il est impossible aux hommes naturels de faire. » Alors peut-être que Nicodème va se lever et va intervenir. Peut-être, comme nous le racontent tous les évangiles, Joseph d'Arimathée qui va avoir l'audace de demander le corps de Jésus à Pilate et qui fait partie lui aussi du conseil d'après ce que dit Luc, peut-être qu'il va intervenir et qu'il va empêcher que le drame se produise. Peut-être que 2, 3 hommes comme eux pourraient dire « il faut respecter cet envoyé de Dieu ». Et puis quand même, ceux-là, Ils ne sont pas des disciples, mais il y a tous ceux qui le suivent. Pierre, celui qui prend toujours la parole le premier, celui qui prétend être capable de suivre Jésus jusqu'à la mort. Peut-être qu'il va intervenir, non ? Peut-être. Oui, il intervient. Et dans la cour du grand prêtre, par trois fois, il va dire « Je ne le connais pas ». Comment Dieu peut-il faire confiance à des hommes pareils ? Peut-être. Et Dieu se dit, comme dans d'autres textes de la Bible où ce « peut-être » est utilisé, peut-être alors reviendront-ils ? Peut-être se repentiront-ils un jour ? Peut-être. Peut-être un jour découvriront-ils qu'ils ont eu tort de ne pas intervenir avant. Et alors, confesseront-ils leurs péchés et reviendront-ils vers ce Fils et apprendront à le respecter ? Peut-être. Vous savez, un Dieu qui place une telle confiance dans des êtres humains comme moi, comme vous, comme chacun d'entre nous, nous pouvons le prendre pour un Dieu naïf. Nous pouvons le prendre pour un Dieu plein d'illusions. Mais Jésus raconte cette histoire avec la force de cette expression. Ils respecteront mon Fils. C'est vrai que cette histoire va tourner au drame. Jésus va raconter que le Fils va y aller et que les gens vont le guetter quand il arrivera. Voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent, le jetèrent hors de la vigne. Jésus raconte ça, peut-être le mercredi ou le mardi et le vendredi, ça va se produire. Ils vont le tuer. Il faut le faire de raconter une telle histoire, à deux jours de sa réalisation dans l'histoire. Et si j'ai choisi de vous parler de cette histoire aujourd'hui, c'est pour que nous comprenions que Dieu ne change pas, qu'il a toujours le même caractère, qu'il a toujours cet espoir complètement fou en l'être humain, et que si cet espoir a été déçu lorsqu'il était placé sur les chefs d'Israël de cette époque, ou en tout cas certains d'entre eux, ou sur les disciples, y compris ceux que Jésus avait désignés comme apôtres pour être plus proches de lui. Qu'en est-il de nous ? Nous sommes ici parce qu'en principe, nous croyons en Jésus. Nous sommes ici parce que, en cette période de Pâques, nous ne pouvons pas nous rappeler qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il a été enterré, mais qu'il est ressuscité. Et parce que nous sommes ici, nous pensons que nous avons fait cette démarche de le respecter, que nous faisons partie de ceux qui essaient de le respecter. Mais derrière cette histoire, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que le Père veut nous faire confiance aux uns et aux autres, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, à avoir cette espérance folle que chaque jour, nous allons lui être fidèles. Que chaque jour, nous allons faire ce qui est nécessaire pour ne pas le décevoir. Nous allons rester près de lui, lire sa parole, converser avec lui dans la prière, mener notre vie en sa compagnie et sous sa direction, pour que notre vie puisse avoir comme bilan essentiel, nous l'avons respecté. Pâques, c'est aussi fait pour ça. Et c'est ce que je souhaite pouvoir réaliser dans ma propre vie. C'est ce que je souhaite que nous puissions réaliser ensemble les uns et les autres pour ne pas décevoir celui qui nous fait une confiance aussi folle. Amen.
Jesus,